français entre les poteaux. Christophe Cessieux.
Salut à tous, il était déjà la star du 15 de France. Antoine Dupont a hérité ce lundi de nouvelles responsabilités. C'est lui qui sera cet automne le nouveau capitaine des Bleus en attendant que Charles Olivon se remette de sa blessure et récupère ou non le brassard. Les Bleus font-ils le bon choix en confiant à Dupont de nouvelles tâches? On en débat dans un instant entre les poteaux. On reviendra également dans ce podcast sur la nouvelle déconvenue du RC Toulon, étrié dimanche soir à Marcel de Flandre. Les 40 points encaissés par les Toulonnais vont-ils sonner le glas des ambitions de Colazo? Peut-il encore demeurer à la tête du club de la Rade? Là aussi, on en débat. Une défaite que les Toulonnais doivent en grande partie à la prestation majuscule de Yaya West, l'ouvreur néo-zélandais de La Rochelle, désigné frelon de la semaine, en espérant pour le club maritime que le néo-zélandais parviendra à rééditer ce genre de match un peu plus régulièrement. Quant aux compatriotes de West, les célèbres porteurs du maillot noir des All Blacks, ils ont étrié les États-Unis ce week-end, leur passant plus de 100 points. Pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui affrontera les Blacks dans quelques semaines. Pas une bonne nouvelle non plus pour le rugby international où le fossé semble s'agrandir d'année en année entre les équipes majeures et les autres. Les poteaux du jour, les voici, les voilà. Denis Charvet porte fièrement le brassard de capitaine de cette équipe de choc. Salut Denis.
Merci.
Tu as été capitaine ?
Je suis flatté.
Tu as été capitaine ?
Au Stade Toulousain, ouais, ça m'est arrivé. Capitaine des Barbariens, 6-7 fois, ouais.
Ça compte ça ?
Oui, mais ça compte pas, non, non.
Il n'est, sûr, pas, compte, il n'est pas le capitaine, mais le maître à jouer et à parler des poteaux. Manu Massicard, patron de Midol, est dans la place. Salut Manu.
Salut les amis. Et non, pas de sélection, pas de capitana, mais comme dirait Vincent Moscato, ouais, oui, il a un peu bricolé.
un peu bricolé.
Tu le méritais, Manu.
Et puis nos joueurs de devoir aujourd'hui se nomment Nicolas Paolorsi et Pierre Amiche, la mafia rochelaise. Quand il n'y en a pas un, il y en a toujours un autre derrière qui se cache.
Ça va. Salut les gars, ça me va moi, hein. Ticket de joueur besogneux, ça me va très bien.
Salut Nico.
L'info est donc tombée il y a quelques heures, après un suspense qui a duré plus d'une semaine, une mise en scène incroyable, des rebondissements incessants. On connaît donc le nom du nouveau capitaine par intérim des Bleus, un garçon à la fois au four, au moulin et désormais au brassard de l'équipe de France. Il s'agit évidemment d'Antoine Dupont, préféré à Ficou, Gelon, Chaldritz et Marchand. Une responsabilité de plus pour le monsieur parfait du rugby français, dont la cote est remontée brusquement, alors que l'on donnait Ficou favori la semaine dernière. Dupont capitaine, est-ce le choix idéal? On entre en mêlée tout de suite. Alors messieurs Galtier et le conclave de l'équipe de France se sont donc réunis. La fumée blanche est une fois sortie de plus de la cheminée de Marcoussis. Antoine Dupont est donc le capitaine par intérim pour l'instant de ce 15 de France. Denis, ton avis là-dessus? Alors c'est vrai que Dupont c'est évidemment un joueur indispensable au 15 de France, mais est-ce que c'est un capitaine indispensable?
Écoute, on a fait un débat au Moscato Show la semaine dernière. J'étais le seul à dire que faire le choix de Dupont, c'était pas un choix par défaut. Je pense que ce garçon, d'abord, je pense que la logique pour un capitaine, c'est pas un trois quarts centre. Je crois que Gaël Ficou l'aurait mérité par rapport à son antériorité, mais après, je pense que un capitaine, il faut qu'il soit au cœur du jeu, que ce soit un talonneur ou un demi de mêlée. Pour moi, c'est incontournable. Voilà. Donc, ou un troisième ligne à la limite, tu vois, comme a été Jean-Pierre Rive à l'époque. Mais Antoine, le truc, c'est qu'avec Antoine, il y a tout qui roule sur lui, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression et que finalement, ce poste de capitaine, il va l'absorber, quoi. Je le pense, après, on ne sait jamais. Peut-être qu'après, il va peut-être mal le vivre, mais. Ouais, je crois que c'est un bon choix. C'est un bon choix parce qu'il est incontournable, qu'il sort jamais pratiquement des 80 minutes, qu'il est là jusqu'au bout, qu'il tire tout le monde vers le haut, et qu'il est intelligent, qu'il parle peu, mais que tout ce qu'il dit, c'est pesé. Voilà.
Il sait aussi, paraît-il, très bien parler aux arbitres, avec respect, ça c'est important, même s'il parle pas terriblement bien anglais pour l'instant.
Oui, hein. Et puis il faut pas oublier qu'il va avoir 25 ans le mois prochain, je crois, donc il est pas si jeune que ça, il est à moitié carrière, et que bon, c'est peut-être le moment, c'est peut-être le momentum, comme dit Vincent.
Momentum. Manu, est-ce que tu partages l'avis de Denis? Est-ce que c'est pas lui attribuer des responsabilités supplémentaires? C'est déjà le maître à jouer de l'équipe de France, un mec qui doit avoir les yeux partout sur le terrain. Là, on va lui donner une responsabilité de plus, même si évidemment, le métier de capitaine, c'est presque plus en dehors du terrain que sur le terrain, mais malgré tout.
Alors, deux choses. La première, c'est que en mettant du bon capitaine, tu te prives d'un deuxième relais, puisque évidemment, comme tu l'as dit, c'est déjà lui le taulier sportif. Et si tu avais mis un autre capitaine, ça aurait été un relais précieux. Maintenant, il faut arrêter de se prendre la tête. Antoine Dupont est le meilleur joueur français aujourd'hui, incontestable. Il va faire l'unanimité et personne ne discutera sa nomination au sein du groupe comme à l'extérieur. Mais j'insiste sur le « au sein du groupe » parce que on sait que de tout temps, il y a toujours des chapelles, les Toulousains, les Clermontois, les Parisiens, les Toulonnais. Dupont, lui, il va fédérer tout le monde parce qu'il est incontournable. Trop jeune, j'en sais rien. Il commence à avoir un palmarès long comme le bras. Il est taulier à Toulouse et personne n'a rien à dire là-dessus.
Et capitaine parfois.
Il est propre, très propre avec les arbitres. Et puis, je vais te dire, c'est le meilleur joueur français et le meilleur joueur du monde. Imaginons qu'à une époque, on n'ait pas mis Jean Prat, Lucien Mias, Serge Blanco ou Jean-Pierre Rive, capitaine. On se prend la tête pour rien.
C'est pas pour rien. Manu, c'est pas pour rien, parce que la responsabilité d'après, c'est on lui confie le rôle de buteur, puis après il conduit le bus et puis il règle les douches quand il fait chaud. Au bout d'un moment, tu as des leaders.
Comme ça, on sera tranquille.
Non, mais tu as des leaders de combat, des leaders de vestiaire, des leaders de touche, des leaders par la voix, des leaders par l'exemple.
Oui, mais alors.
Et le problème que va avoir l'équipe de France, et là je te rejoins à 100%, c'est qu'on se prive d'un autre leader. C'est-à-dire qu'Antoine Dupont, il est déjà leader, on le sait. Mais si, il est leader de jeu, c'est lui qui. Il est déjà la star de l'équipe de France, c'est lui qui prend la lumière, c'est lui qui marque les essais. Ce leadership, je pense que c'était important de le partager. Simplement pour faire monter d'autres joueurs.
Mais tu le partageras quand même, d'une façon ou d'une autre, tu le partageras.
Oui, mais c'est fait un truc hyper symbolique.
Mais je pense,
le stade du 15 de France qu'on a fait un événement.
Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que par rapport à ce choix, c'est révélateur parfois. On l'a vu, Jean-Pierre Rive à l'époque, c'est notre époque, mais il était très taiseux, il ne parlait pas beaucoup, et tout d'un coup, il est sorti du chapeau, tout le monde était étonné, il s'est révélé par la suite. Comment il s'est révélé? Il s'est révélé parce qu'il a pris le capitaine en main, et ça lui a plu, et il a été investi d'une mission. Je crois que c'est une mission aussi être capitaine. Je pense que Petit Dupont, Antoine, il a ça en lui. Je crois que
mais ça va être acquitte double, Denis, je pense. Parce que là, en fait, il change de statut une nouvelle fois, Antoine Dupont, avec ce brassard de capitaine. Désormais, c'est soit il bascule, comme le dit Manu, en tant que plus grand joueur, peut-être meilleur joueur du monde actuel, il assume cette fonction de capitaine et tu le dis toi-même, il y a tout qui lui glisse dessus. Soit justement, comme le dit Pierre, il va être un petit peu écrasé par tout ça parce qu'il va devoir tout gérer. C'est lui qui va endosser la responsabilité sportive et extra-sportive et ça va être dur pour lui de gérer ça et peut-être qu'on va l'impacter avant la Coupe du Monde.
Les enfants, dites-vous une chose, c'est que Antoine Dupont, il n'est pas seul. Autour de lui, il y a à Toulouse, il y a Ntamack, il y a Marchand, il y a en équipe de France, Cross. Tu as Aldrit, tu as Cross. Que des mecs de sa génération et qu'il connaît par cœur. Il va déléguer, il va s'appuyer naturellement sur eux, il prend pas toute la lumière. C'est pour moi, il y a pas de hasard, il y a pas de risque à nommer Antoine Dupont. Surtout qu'en plus, c'est le mec qui te fait 80 minutes.
Mais
allez,
oui,
tu vas le sortir, tu vas faire 78 minutes. Si tu mets Marchand, il va faire 50 à 60 minutes. Mmh. Si tu mets Jelonche, il va faire une mi-temps. Si tu mets Aldrit, il va faire 60 minutes. Là, tu as la certitude
Aldrit,
d'avoir...
Aldrit, il fait quand même tous les matchs. Hein.
C'est, oui, Aldrit, c'est ouais, comme vous.
Aujourd'hui,
il y a Ficou, après, Ficou qui joue tous les matchs.
Ouais, mais il est loin, Denis, s'il va jouer à l'aile.
Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'était un mauvais choix, mais après, bon...
Il y a eu des capitaines ailiers quand même.
C'est quoi le meilleur poste, justement, pour être capitaine? Tu disais tout à l'heure, talonneur, demi-mêlée.
Talonneur.
Peut-être ouvreur aussi, il y en a eu
quelques-uns.
C'est vrai que les grands capitaines du 15 de France, c'était quand même des demi
broca de mêlée. Non, après, trans du broca.
Ouais, mais là, vous parlez d'une époque où les talonneurs faisaient tout le match. Là, aujourd'hui, les talonneurs, ils font 50 minutes.
La plupart des capitaines des grandes nations.
Berbizier, Galtier, ça, c'est les demi de mêlée capitaines.
Oui, et puis t'as aussi quand même Thierry Dussautoir, qui est le capitaine emblématique d'une génération qui était troisième ligne. Jean-Pierre Rive, troisième ligne. Richie Macaud, des plus grands capitaines de l'histoire, troisième ligne.
Il n'y a pas
vraiment de règles. Ouais, Philippe Saint-André a été un grand capitaine de l'équipe de France. Il était à l'aile. Fabien Pelousse en deuxième ligne ou 8. On a eu Lionel Nallet qui a été capitaine, il n'y a pas vraiment de règles. Après, il y a des
profils. Tu parles de ces joueurs qui sont
au
cœur du combat quand même, pour la plupart. Donc, il faut être près du combat,
Philippe Saint-André qui joue à l'aile,
c'est
un grand capitaine.
Oui, mais c'est un des rares.
Alors, ce brassard, il le récupère officiellement de manière temporaire, mais on se demande finalement s'il ne va pas le conserver définitivement. Olivon est toujours convalescent. On ne sait pas s'il sera rétabli pour le tournoi. On ne sait pas non plus dans quel état de forme il va revenir. Et puis, le garçon est soumis à une rude concurrence en troisième ligne. Il n'est pas assuré d'être titulaire dans cette équipe de France. Est-ce que le temporaire va pas se transformer en définitif pour vous?
Non, moi je pense pas parce qu'ils ont tout fait pour préserver Charles Olivon dans l'annonce. C'est-à-dire que clairement tout le barnum qui a été fait pour annoncer avec, comme tu l'as dit, le conclave, la fumée blanche, etc. Ça visait aussi à préserver un peu Charles Olivon et que ce soit pas trop brutal pour lui. Il reste dans le projet et je suis pas spécialement inquiet pour son brassard de capitaine, et d'autant qu'on le donne
mais
pas un avant.
Pourquoi on en fait non. des tonnes autour de ça justement?
Parce que c'est aussi un peu de la com.
Olivon est pas là. Antoine, tu prends le brassard pour trois matchs.
Il y a beaucoup de com là-dedans.
Mais j'ai l'impression que c'est un passage de relais officiel et définitif, moi.
Mais c'est parce qu'il y a la sacralisation de à peu près tout maintenant dans ce staff de l'équipe de France, où t'as l'impression que le moindre déplacement, la moindre prise de parole, on touche au mystique. Donc ça correspond un peu à l'état d'esprit que veut générer le staff par rapport aux joueurs. Et puis c'est pas un hasard si c'est Antoine Dupont et pas un avant qui a été nommé capitaine. C'est aussi peut-être une manière de nouveau de préserver Charles Olivon et son leadership. Si on avait choisi Jelonch ou Aldrit ou Julien Marchand, peut-être que ça aurait été un problème.
Je n'y crois pas une seconde. Je pense sincèrement que c'est pas un choix par défaut, c'est que s'il se révèle, s'il est dans son rôle, s'il arrive, imagine demain, tu bats les Blacks avec Antoine Dupont capitaine, tu vas pas le prolonger dans la fonction?
Non, je crois pas.
Je suis sûr.
Je pense que ce sera.
Je suis sûr, on peut prendre le pari si tu veux.
Tout dépendra
comment il s'en sortira, comment il joue, il y aura ce rôle là, et puis surtout les résultats.
Et puis si tu tapes les All Blacks avec Dupont capitaine. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? J'ai pas entendu.
Souvenez-vous du sautoir.
Et oui,
c'est ça, c'est passé.
Et oui, exactement.
Galtier Ibanez.
Le Galtier Ibanez, Pelouse, je sais plus qui. Au bout d'un moment, il y a que la logique du terrain qui va primer. C'est, j'enfonce une porte ouverte. J'en suis désolé, mais oui, certainement que d'avoir nommé un trois quarts, c'est une manière de protéger Charles Olivon. Et certainement qu'il y aura un attelage à l'avenir. Maintenant, si Dupont devient capitaine incontournable, incontournable le capitana, il faudra aller le déloger. Parce que Charles Olivon non plus n'est pas sûr de revenir à son meilleur niveau, et lui aussi sera soumis à forte concurrence.
Oui, et puis je pense pas que ce soit lui rendre service à Charles Olivon de le réintégrer en équipe de France du jour au lendemain le brassard. Je pense
que ce serait pire de le réintégrer, pas de lui rendre.
C'est quand même une fierté de jouer en équipe de France, pas du tout.
C'est un désaveu.
Mentalement, ce serait dur.
Je pense pas. Je suis pas d'accord avec vous. Alors après, ça implique que Antoine Dupont ait gagné les test matchs
et
était bon. On n'en est pas là encore.
Ouais. Bon, on verra ce qu'il en est. En tous les cas, Antoine Dupont est donc le nouveau capitaine temporaire, par intérim pour l'instant, de cette équipe de France. Mais il est possible que ça se prolonge quelque peu. Les Bleus qui vont donc pouvoir maintenant se préparer pour le premier match qui les opposera à l'Argentine. Ce sera le 6 novembre prochain, un peu moins de deux semaines de préparation, mais pas de nouveaux gros bobos pour les Bleus qui sont au complet depuis ce matin.
Un forfait malgré tout, celui de Winny Antonio qui est remplacé par Dorian Aldeguerri dans le groupe. Winny Antonio touché, on parle d'une lésion musculaire. Nicolas Paul Orsi aura peut-être plus d'infos que moi, mais c'est pas une grande nouvelle ni pour l'équipe de France ni pour Winny Antonio. Par contre, c'en est une bonne pour Dorian Aldeguerri qui va pouvoir rejoindre le groupe de l'équipe de France.
Il était dans l'attente, Aldeguerri, de savoir si effectivement Antonio pourrait tenir sa place. D'autres questions évidemment se posent et vont se poser jusqu'à l'annonce de la composition la semaine prochaine. Tout le monde se demande évidemment si les sélectionneurs vont oser aligner Ntamack et Jalibert ensemble. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. On rappelle qu'un resto étoilé est quand même en jeu et que messieurs Massicard et Charvet sont pas tranquilles quand même.
On a dit qui ça voit.
On n'a pas dit un grand étoilé.
Tout à l'heure, Manu, avant d'enregistrer, il me disait, mais tu es sûr que j'ai dit ça, moi? Mais oui. On a les bandes, on les ressortira.
Ouais, en même temps, c'est pas encore fait. Hein.
Non, c'est pas fait. C'est pas encore fait pour vous?
Pas du tout.
Premier entraînement, jurisprudence retière. Premier entraînement avec les Bleus. Si Fabien Galtier a des idées, il peut aussi changer. Et Arthur Retière, qui était pressenti pour débarrer un match, s'est retrouvé derrière et il a eu du mal à revenir derrière.
Ah, donc il ne faut pas se rater au premier entraînement.
Exactement.
Les entraînements sont les matchs. Ouais, absolument.
N'oubliez pas que Fabien compte les entraînements et les matchs et qu'il considère qu'il est important de bien s'entraîner. Et de fait, il sait qu'il a plus beaucoup de matchs d'ici à la Coupe du Monde, donc il va aussi beaucoup regarder les entraînements.
Très bien. Il ne faut pas se rater donc pour ce premier entraînement.
Qui aura lieu... jamais, c'était Arthur Vincent aux entraînements.
Ouais.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu pas le chouchou, mais enfin le
très apprécié, très titulaire. Et d'ailleurs.
Mais à juste titre, je ne dis pas chouchou parce que c'est assez incroyable.
Et pas un paillot, quoi.
Ouais,
alors, il s'est filé aux entraînements.
Et en attendant de savoir donc quelle composition sera communiquée par le 15 de France, on va revenir nous au top 14, notamment au dernier match de la 8e journée qui opposait donc hier La Rochelle à Toulon et qui a vu les Maritimes s'imposer avec la manière, s'il vous plaît, 39-6 contre le RC Toulon. L'homme du match se nomme Yaya West, auteur à lui seul de 24 des 39 points à Rochelet. Performance majuscule qui lui vaut d'être désigné, bah oui, frelon de la semaine.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Yaya West qui revenait de blessure et d'une période pas vraiment heureuse ni convaincante pour lui, avec une fin de saison dernière, on s'en souvient, un peu ratée, notamment les finales où il était complètement passé à côté. Et Pierrot est désespéré quand je lui rappelle ces moments-là. Il a montré, Nico, qu'il restait un joueur de grande valeur. Maintenant, il va falloir qu'il s'inscrive dans la durée. Hein.
Complètement. Alors déjà, il a marqué un doublé et c'est une première pour lui depuis son arrivée à La Rochelle à l'été 2018. Hein. Et c'est un vrai soulagement ce match pour lui. Alors deuxième titularisation seulement de la saison, il a été blessé lors de la deuxième journée aux adducteurs, absent environ 5-6 semaines. Plus que ses deux essais, c'est sa réussite au but qui va lui faire un bien fou. Un très solide 6-7 hier, avec notamment une pénalité qui passe de la ligne médiane. La Rochelle a les buteurs, je vous le rappelle, les moins efficaces du championnat depuis le début de saison. Ça, c'est statistique. West buteur, c'est un gros débat depuis de nombreux mois à La Rochelle. Alors, lors de son seul match qu'il a disputé cette saison au Racing, il était à seulement 50% de réussite face au Perche. Et puis, on s'en souvient, bien sûr, tu l'as dit, Christophe, les deux finales manquées. Il était passé à côté, il avait laissé filer beaucoup de points au pied. Ça l'a marqué. Il l'a dit en conférence de presse qu'il avait eu du mal à s'en remettre. Il lui a fallu vraiment du temps pour digérer ça, pour cicatriser. Ce qu'on nous dit à La Rochelle, c'est qu'il a redoublé de travail dans le tir au but. Hein, il fait beaucoup de séances supplémentaires dans ce domaine pour essayer de limiter ses échecs et de gommer ça. Et on a vu contre Toulon, alors il y a des signes comme ça dans le sport de haut niveau, Denis, t'es bien placé pour le savoir, mais on a vu ses coéquipiers, dès qu'il a marqué un essai, dès qu'il passait une pénalité, venir le féliciter ouais. Chaleureusement à chaque tentative. Ça prouve que La Rochelle a besoin d'un bon West pour réussir sous saison et puis cette saison. Et puis je termine en vous rappelant que il est en fin de contrat à l'été prochain, qu'Antoine Astoy a été recruté, que les dirigeants Rochelais sont à la recherche d'un deuxième 10, et donc avec de très bonnes performances du Néo-Zélandais, ça pourrait peut-être les faire douter. L'année dernière, il était en fin de contrat aussi, et avec sa bonne saison, il avait réussi à faire prolonger son contrat d'une saison. Peut-être qu'il va essayer d'avoir cet objectif-là.
Alors, West qui flambe et Jules Plisson qui déprime. Pierre, tu as été choqué, je crois, par les choix du réalisateur, du diffuseur hier soir. Hein.
Ouais, pour moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse qu'à chaque fois que Yaya West réussissait une action positive, un essai ou une transformation, une pénalité, immédiatement, on avait le droit au gros plan de Jules Plisson en tribune. Je trouve ça dégueulasse parce que Jules Plisson n'a rien demandé à personne. Et il ne peut rien faire d'autre qu'applaudir poliment celui qui est aujourd'hui son concurrent. Et je trouve ça un peu dommage parce que Jules Plisson, on sait que c'est un joueur pas tenté, qui a beaucoup de qualités, pas forcément celle d'avoir le mental le plus indestructible de la Terre, et c'est le mettre en difficulté et presque en concurrence malsaine avec un joueur avec qui il partage son quotidien et le poste de 10 à La Rochelle.
Et ils s'entendent bien en plus, hein, c'est ça, Plisson, c'est pas un joueur qui triche en plus sur le terrain. Donc.
Et j'ai trouvé ça assez dégueulasse en fait, j'ai trouvé ça petit.
Jules, c'est un gamin très mignon, hein. Je le connais bien, je lui en barbarien, mais je l'ai fréquenté quand il joue au Stade Français.
Il est gentil, il ne demande rien à personne.
Des valeurs, il est pur, enfin voilà, c'est terrible ce qui lui arrive, j'espère qu'il va rebondir, que ce soit à La Rochelle ou ailleurs, mais en tout cas, il mérite pas ça, quoi. Tu as raison de le dire et de le préciser.
C'est vrai que sa fin de saison risque d'être assez longue. Est-ce qu'on n'est pas là, dans l'état actuel de Jules Plisson, là, c'est pas la conséquence de l'annonce de l'arrivée d'Astoy qui a été faite très tôt, hein, on avait déjà débattu dans les poteaux il y a quelques semaines, mais ça déstabilise parfois des joueurs
de
savoir qu'ils vont avoir une concurrence terrible la saison d'après, en leur disant, voilà, il y en a un qui arrive, toi tu seras numéro 2, voire numéro 3.
Ou numéro rien du tout, parce que Jules Plisson est aussi en fin de contrat.
Ouais. Donc, oui, mais il nous l'a dit, moi je l'ai vu, on a eu un entretien à RMC Sport avec lui la semaine dernière, et Christophe tout de suite il m'a dit, quand t'es en vacances, que tu sais qu'on a recruté à ton poste, alors que c'est pas forcément le projet qu'on t'a vendu à la base, que tu sais que c'est ta dernière année de contrat, bon ta saison...
De toute façon c'est un désaveu pour lui.
Tu sais quel tournant elle va prendre ta saison, donc c'est compliqué.
Si Jules s'en était sorti, était au niveau, ils n'auraient jamais recruté Astoy, c'est évident. Donc c'est quand même une forme de désaveu pour le joueur.
C'est pas encore fini, hein. Il peut aussi renverser la tendance, il peut aussi décrocher un contrat l'année prochaine.
J'espère pour lui. Hein.
Ça va être compliqué. L'arrivée d'Astoy, c'est certainement un handicap pour lui. Mais tout n'est pas encore joué. Je vous rejoins sur le fait que l'annonce de l'arrivée d'Astoy en début de saison et ses mutations de plus en plus précoces, ça fait un mal fou aux joueurs et aux effectifs. Et ça, il faudra bien un jour ou l'autre régler ce problème-là. Maintenant, moi, je fais confiance à Jules Plisson, qui est un garçon pétri de talent, plein de qualités, pour relever la tête. Les images, oui, elles sont dures. Oui, il a dû prendre plein fer le chambrage des brivistes qui étaient pas violents, mais qui étaient limites, qui lui ont sans doute filé mal à la tête. Mais maintenant, il faut qu'il réagisse.
Ouais. Jules Plisson, qui n'est pas le seul déprimé de la soirée. Eh oui, dans l'autre camp, c'est même la soupe à la grimace. Cinquième défaite en 8 matchs pour les Toulonnais, désormais 13e et donc en position de relégable. Patrice Collazo, vous allez l'entendre, reconnaît que son équipe est en plein doute.
On est victime du doute aussi, quoi. On peut pas être précis et clinique quand vous êtes en plein doute, quand vous voyez le score en fait qui gonfle. Et là, je les ai dans le vestiaire, ils comprennent pas en fait. Ils me regardent, ils comprennent pas. Ils me disent mais c'est pas possible. Quand on prend 40 points, on sait pourquoi on prend 40 points. Enfin, moi, je le sais. Mais eux, dans leur tête, il n'y a pas de démission collective, il n'y a pas de... voilà. Comme je leur ai dit, il faut attendre le coup de pouce de personne. Hein, parce que là, ce qui est sûr, c'est que personne ne va nous le filer. Les joueurs, il faut qu'ils comprennent. Moi, je l'ai compris depuis un moment, mais je veux que les joueurs le comprennent, ça aussi. Puis à un moment donné, il faut dire, bon, stop, hein, y en a marre maintenant.
Ils sont dans un engrenage qui est terrible et c'est marrant parce que j'ai parlé avec Xavier Garbajosa ce matin. Il me racontait son épopée de Montpellier, c'est un peu la même chose. Même sinistrose, et à un moment donné, même si tu mets plein d'énergie, même si tu mets de l'envie, ben, y a rien qui suit. Le mauvais geste au mauvais moment, tout s'emboîte mal.
Enfin, Montpellier, il perdait souvent dans les dernières minutes de quelques points.
Ils prennent 40 quand même.
Oui, mais il démissionne pas. Moi, j'ai vu le match hier soir.
Ils
démissionnent pas. Je peux pas aller te dire, j'ai vu le match.
Ils sont lâchés, tout ça.
C'est pas vrai.
C'est peut-être une question de niveau de cette équipe, tout simplement.
Oui, c'est ce que
parce qu'il y a un engagement. Et c'est sans doute ce qui fait très mal à Patrice Collazo. Là, les mecs, ils n'ont pas démissionné. Il y a eu un engagement terrible.
Terrible.
Pour autant, ils en prennent 40 et pour autant, ils sont dominés physiquement par les Rochelais. Et puis derrière, individuellement, ça fait la différence. La Rochelle est sans doute mieux armée aujourd'hui que ce Toulon-là. Et Toulon, qui est sacrément diminué, compte aujourd'hui ses absents. Et plus que l'état d'esprit des troupes, c'est ça aussi qu'il va falloir rentrer.
Nico, il était dans quel état, Collazo, hier en conférence de presse?
C'était compliqué. Alors, ce qui est dur pour Toulon, c'est qu'avant ce match d'hier, ils étaient la 8e défense du top 14. Donc, tu te dis que c'est le secteur de jeu qui était plutôt satisfaisant depuis le début de saison. Et hier, ils se sont fait transpercer. Donc, c'est là où c'est compliqué. On le sent un petit peu abattu, Patrice Collazo. En plus, on connaît son mode de management. C'est quelqu'un qui est très autoritaire, qui est très dur. Il y a une vraie rupture avec certains joueurs. Il y a une rupture aussi avec certains membres du staff. Et pour lui, c'est compliqué d'activer certains leviers là pour redresser la barre. Franchement, on a du mal à voir comment Patrice Collazo va réussir à remettre la machine dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans les attitudes, corporellement, les Toulonnais y étaient. Et c'est peut-être ça qui est encore plus inquiétant pour eux. C'est-à-dire que c'est une vraie question de niveau, c'est pas une question d'état d'esprit.
Puis il y a une question d'usure physique aussi, parce qu'il faut quand même expliquer à ceux qui nous écoutent que Patrice Collazo, c'est un entraîneur qui demande énormément à ses joueurs à l'entraînement du lundi au dimanche. Il y a séance vidéo très tôt le lendemain du match. Il y a rarement des périodes de repos. On s'en voit à 100% quasiment tout le temps. La preuve, l'Aurélien, champion olympique fidjien, s'est quand même pété un doigt sur une mise en place. Moi, j'avais jamais vu ça, hein, dans l'histoire du rugby. Normalement, une mise en place, il n'y a pas d'opposition. On le fait en marchant avec des chasubles. Il a quand même réussi à se péter un doigt. Donc, c'est quand même un entraîneur qui demande beaucoup. Et le problème, c'est que ça crée de l'usure physique aussi. La plupart de ses leaders, ils jouent tous avec un petit pet. Que ce soit Facundo Isa, Swan Rebadge, Bello a été blessé, Carbonel est diminué. Enfin, l'effectif de Toulon n'est plus aussi pléthorique qu'il y a 10 ans. Et chaque fois qu'un leader est absent, ça pose vraiment problème. Mmh. Et regardez hier son choix, malheureusement, qui n'a pas payé de faire jouer un pilier au poste de talonneur. Ça fait partie des choses.
Il n'avait pas trop le choix non plus. Hein.
Il avait le choix de faire jouer son talonneur américain, qui est un joueur moyen, mais qui est un joueur du poste, ou de faire monter. Et quand même, on rappelle que Souris est parti en prêt, alors qu'il aurait pu gagner les temps de jeu.
Exactement. Patrice Collazo qui explique rencontrer son président tous les lundis, Bernard Lemaître, qui avait la rencontre, avant la rencontre, affirmé que son manager n'avait jamais été en danger.
C'est pas ce qu'il a dit avant, quand même.
C'est pas s'il croit toujours la même chose. En tous les cas, la défaite passe très mal, évidemment, auprès des supporters toulonnais qui ont décidé d'un rassemblement jeudi prochain devant le campus RCT pour exprimer leur mécontentement. La pression est...
Ça ressemble à Marseille.
T'es pas très loin. Non,
par contre, il faut juste dire qu'au passage, que La Rochelle a fait une bonne pioche à Identi quand même. Hein.
Ouais, c'est pas mal comme joueur.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je l'ai vu jouer hier soir, le gamin.
C'est la première fois qu'ils alignaient leur équipe type, hein, vraiment, les Rochelais.
C'est ça.
Et tu sens quand même que quand tout le monde est bien physiquement, et voilà, ça peut faire mal.
Ouais. Sans Bottier.
Dommage qu'on n'ait pas
l'équipe
type.
Sans Bottier, exactement.
Ouais, mais avec Skelton qui a pas pris jaune, alors t'imagines.
Et pourtant, à un moment, j'y ai cru, hein, quand il met un coup de plafond à un gars par terre, je me suis dit, oulala, attention, il y va. Et non, c'est bon, pas vu, pas pris.
Allez, tout de suite, messieurs, il est l'heure de notre rubrique French Cancan, les dernières infos du rugby international et donc de la Coupe du Monde. Alors si la Coupe du Monde 2023 est encore loin, les tournées de novembre, elles, ont débuté, notamment pour l'Australie, vainqueur du Japon 32-23, cinquième succès consécutif pour les Wallabies, qui vont maintenant rallier l'Europe pour y affronter successivement l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles. Début de tournée également pour les All Blacks, qui étaient à Washington ce week-end. Ils ont passé une véritable dérouillée aux États-Unis, écrasés 104 à 14. On l'a compris, les Blacks sont en forme, et cette victoire pose aussi un problème, Pierrot, celui du niveau des équipes du tiers 2 et 3.
Ah oui, ça fait partie des matchs totalement inutiles du calendrier international, un match entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. C'est un déplacement franchement commercial pour les Blacks qui se rendaient dans le Maryland avec une équipe totalement remaniée et quelques jours seulement avant un autre match à Cardiff face au Pays de Galles. Alors au-delà de l'empreinte carbone, ce match va forcément laisser des traces parce que sur le terrain, ça a été une leçon de rugby, humiliation en règle, 16 essais et l'impression que l'écart entre les deux équipes était aussi important qu'entre une équipe de top 14 et de fédéral 3. Ce qui est terrible, c'est que la fédération américaine cherche à travers ces matchs à crédibiliser son sport en accueillant les meilleures équipes du monde et que son homologue néo-zélandaise cherche elle à gagner des nouveaux marchés. Mais quelle image affreuse! Nous qui réclamons plus de matchs entre les équipes du tiers 1 et du tiers 2 et 3, ben voilà de quoi nous guérir un peu parce que les Blacks ont marqué quand ils le voulaient, en première main, devant, derrière, en lançant du parking. Côté All Blacks, je ne sais pas si Ethan de Groot, Quinn Tupéa ou Dalton Papali vont gagner leur place pour la tournée européenne, mais ce qui est sûr, c'est que dans un pays où n'existe rien à part les winners, il risque d'y avoir quelques galères pour faire payer celles des éventuels curieux qui voulaient encore découvrir le rugby outre-Atlantique. Pour rappel, les États-Unis ne sont pas encore qualifiés pour la Coupe du Monde 2023 en France, mais même s'ils se qualifiaient, reste la question valable pour eux, mais aussi pour le Canada, l'Uruguay, la Roumanie, la Russie. Se qualifier, d'accord, mais pourquoi faire? Et puis en creux, une question encore plus grave, le rugby est-il finalement un sport qui ne peut se disputer contre 12 équipes?
Alors c'est vrai que pendant des années, on nous a dit que ces équipes-là allaient progresser, Denis, venir titiller les grandes nations, c'est pas le cas, il faut se rendre à l'évidence. Alors est-ce qu'il faut insister ou alors abandonner l'idée?
Insister, il faut les aider. C'est la voie rugby, c'est un devoir la voie rugby de les aider, de les accompagner. Je vais pas juger parce que je sais pas quelle est leur mission aujourd'hui à la voie rugby d'aider ces nations là, mais c'est vrai que le fossé se creuse et ça devient quand même très critique. Il va falloir se pencher là-dessus.
Manu, on peut les aider et on peut les faire progresser ces équipes là
on peut les faire progresser. Il faut continuer d'aller jouer là-bas. Il faut continuer de.
Il faut continuer à assister à ce genre de boucherie. Tu penses que ça leur fait du bien?
Mais pas forcément sur ce niveau-là et pas face aux Blacks.
Ouais, pas face aux Blacks.
Mais ça leur rend pas service
de jouer
contre
les Blacks.
L'Italie contre l'Écosse par moment.
Mais ils vendront rien. Eux, ils ont des objectifs publicitaires et commerciaux. Tu remplis à moitié ton stade quand tu reçois les Blacks.
Excuse-moi de penser que le rugby est aussi un sport, monsieur Hamish.
Excuse-moi de te dire que les rugby sont morts. Hein. Celui namibien, il est en train de crever. Le Canada, de toute façon, il est même pas qualifié.
Non, ils sont pas qualifiés.
C'est ce que je te dis. Et donc il y a quand même un paquet de rugby qui sont en train de crever. Pendant ce temps-là, le fossé se creuse et on a des super nations méga puissantes qui peuvent aller faire des déplacements pour vendre des jolis maillots à l'autre bout du monde et il y a des nations qui n'existent plus. En revanche, juste le truc positif pour les États-Unis, c'est que ça reste une des meilleures équipes du monde en rugby à 7. C'est le rugby universel et je suis très content de savoir que c'est le sport olympique parce que les États-Unis, avec notamment Perry Baker et Carlin Hall, qui sont les deux porte-étendards de cette formation, on se régale quasiment tous les week-ends. Le circuit de rugby à 7 qui a repris et ça, c'est cool.
C'est ça. En rugby à 7, on sent que des équipes sont arrivées, ont progressé et sont au niveau des meilleures, mais ça n'a jamais été le cas en rugby à 15. Et ça fait des années que c'est comme ça.
Il y a quelques années, si le Canada était venu, s'était mis à un certain niveau, les États-Unis aussi. Aujourd'hui, ça a beaucoup régressé.
91.
Oui, 91, on l'avait vu à la Coupe du Monde en France. Ouais. Aujourd'hui, le fossé se creuse.
Oui, mais la professionnalisation n'est peut-être pas la même dans les grandes nations.
Il ne faut pas aller trop vite. Pierre a raison.
Manu, regarde ce qui se passe avec l'Italie. On ne va pas trop vite. On leur a laissé beaucoup de temps. On a l'impression qu'ils régressent d'année en année.
Il ne faut pas aller trop vite. Il y a un championnat qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Ça va prendre 2, 3, 4, 5, peut-être 10 ans. Je veux croire que quand tu sors des setistes, tu peux sortir des quinzistes avec un développement de la culture. Mais ce n'est pas en jouant les Blacks tous les ans pour remplir des stades et en faisant une opération promotionnelle et que tu vas faire progresser ton sport. C'est ça que je veux dire. Ouais. Priorité aux sportifs, que cette équipe se fasse les dents sur le tiers 2 et après on verra. Mais c'est pas en envoyant les mecs au carton contre l'Australie et les Blacks que tu vas faire grandir les États-Unis.
Très bien, merci messieurs, vous avez été parfaits comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine. On sera à une semaine de France-Argentine, le début de la tournée pour l'équipe de France. Et oui, elle aussi entre en tournée. Merci, à la semaine prochaine.
C'est Denis qui paye, on est d'accord. Salut les amis.
Évidemment.